C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 133 du 9 mars 2026. Au sommaire de cette émission, nous recevons Jean-Luc Romero-Michel, conseiller municipal et adjoint à la mairie de Paris pour une grande entrevue en deux parties. Gengis Grenier nous propose à sa chronique aux petits soins les familles comme source de stress pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et enfin, nous explorons l'univers des mangas queer avec Philippe Aubert-Côté dans le cadre de sa chronique « Queer Côté Geek ».
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Jean-Luc Romero-Michel est le premier élu français à avoir déclaré sa séropositivité plus publiquement en 2002. Il a aussi été le premier politicien français à être victime d'un outing en 2000. Conseiller municipal du 12e arrondissement de Paris depuis 2014, également maire suppléant de Paris, Jean-Luc Romero-Michel est un militant pour les droits de la diversité sexuelle et de genre, pour les personnes vivant avec le VIH et du droit à mourir dans la dignité, un droit qui n'est toujours pas acquis dans l'Hexagone. Il est aussi très engagé dans le dossier du chemsex. J'ai rencontré Jean-Luc Romero-Michel lors de mon séjour à Paris l'été dernier et voici donc quelques segments de cet entretien.
Comment peut-on être politicien dans un monde où la politique est en crise de confiance? On ne croit plus les politiciens. Comment on navigue là-dedans? Comment navigues-tu là-dedans?
Comme tout le monde, difficilement, parce que quand tu as l'impression de donner beaucoup de ton temps, parce que quand tu fais de la politique, quand tu es élu, alors moi c'est vrai que j'ai un pied dans l'associatif et un pied dans la politique, mais quand tu es élu, tu consacres énormément de temps au détriment de ta vie personnelle. J'étais à Budapest pour la mairie, je rentre à 15h, à 15h30 je suis au Solidaires pour représenter la maire tout l'après-midi et le soir pour accueillir une artiste dans mon arrondissement. Voilà, et ça, c'était une semaine normale, c'est-à-dire une semaine où je n'ai pas eu du tout de temps pour moi. Et c'est compliqué. Là, cette semaine, on a le Conseil de Paris. C'est de 9h à 21h. On continue quand même à y faire aussi quelques réunions importantes pendant ce Conseil. Tous les soirs, j'ai des dîners de travail. On vit assez mal le fait que les gens vous reprochent de qu'on ne sert à rien, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on fait avancer des choses, mais qu'ils généralisent avec certains élus qui ne font pas leur boulot, qui sont corrompus, etc. Et qu'en fait, tous les élus payent pour ça. Et puis aussi parce que beaucoup n'ont plus vraiment de conviction. On fait de la politique comme on fait une carrière. Alors que c'est, pour moi, c'est pas une carrière. On fait pas une carrière politique. Et je vois de plus en plus de jeunes arriver. On pourrait les mettre à gauche, à droite. Ce serait presque la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être élus. Et je pense que le manque de conviction, surtout à un moment où il y a des populismes dans le monde entier, hein, vous n'êtes pas épargné ni au Canada, évidemment avec les États-Unis, avec le terrible Donald Trump. Nous, en Europe, on n'est pas épargné avec Orban en Hongrie, avec une ministre d'extrême droite en Italie, avec un président d'extrême droite en Pologne. Je trouve que c'est là où il faudrait que les politiques revendiquent un peu plus des convictions et puis sachent défendre des valeurs, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs quand on est à l'extrême droite et populiste, même face à tous les autres partis, je dirais, entre guillemets, démocratiques. J'y placerais même les droites républicaines, entre guillemets. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de politiques, en plus, ont renoncé. Donc, je comprends que les gens soient désabusés.
J'aimerais amener la question, en fait, même encore plus proche de tes combats. Quels sont les défis d'être un élu ouvertement gay et ouvertement séropositif en 2025?
Alors, honnêtement, en France, même si ça évolué plus lentement qu'au Canada. Très clairement, moi je me souviens les premières fois où je venais aux Fiertés, Montréal, etc., il y a très longtemps, où on voyait plein d'élus qui assumaient leur homosexualité, de lesbiennes, de trans, etc. Nous, ça a quand même mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a à peu près une dizaine d'années où il y a quand même un certain nombre d'élus, et encore, pas beaucoup, qui parlent de leur homosexualité. Mais en tout cas, ça me paraît plus extrêmement compliqué en France. Je pense que les gens s'en fichent, du moment que vous faites votre boulot. Par contre, la séropositivité, ça reste quelque chose de compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est la maladie. Parler de la maladie, c'est extrêmement tabou. Si vous êtes un politique, vous devez paraître fort. Et être malade, c'est être faible. Ce qui est un paradoxe absolument hallucinant, parce que chacun dans sa vie aujourd'hui peut vivre peut-être plus longtemps avec des accidents de la vie.
On n'a qu'à te regarder.
Voilà. Ah, voilà.
C'est clair que t'es ouais. pas faible.
Ouais, mais c'est cette vision-là qu'ont les gens. Et donc, très peu d'hommes politiques. Il y a eu le maire de Rouen récemment. Moi, j'étais avec lui en plus. On faisait une réunion sur le sida il y a 10 jours ensemble. Et je le félicitais d'avoir dit qu'il avait un cancer. Et il me disait, mais j'étais surpris de recevoir des centaines de courriers de gens qui me disaient merci. Je dis, bah oui, mais parce que tu as l'honnêteté, toi, en tant qu'élu, de le dire. Ça touche les gens parce que ça montre que parce que t'es élu, bah oui, tu vis la même chose, tu vas mourir comme tout le monde et t'as des maladies comme tout le monde, mais ici c'est extrêmement impudique de le dire. Et puis le VIH, au-delà du caractère de fait de qu'il y a un tabou autour de la maladie en France, chez les politiques, il y a le tabou, évidemment, du VIH qui reste très stigmatisant, qui reste une maladie honteuse, un virus tabou. Et tout ça en 2025. D'ailleurs, c'est ça le grand paradoxe. C'est pas toi que je vais l'apprendre, mais les progrès médicaux ont été considérables. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Mais les progrès sociétaux ne sont pas à la hauteur des défis. Et la sérophobie est une réalité. Et être un élu, d'ailleurs, la preuve, en France, je suis encore, ça fait, je l'ai dit en 2002, on est en 2025, ça fait 23 ans que j'ai dit que j'étais séropositif. Je connais d'autres élus qui le sont, mais qui ne veulent pas le dire. Quand je leur en parle en disant, allez-y, ça va aussi dédramatiser, ça va aider, mais ils sont terrorisés à cette idée-là. D'ailleurs, même en Europe, j'en connais pas d'autres. Donc, c'est dire à quel point ça reste compliqué, alors que j'ai quand même l'impression que dans nos pays, même s'il faut faire attention au retour en arrière, etc. Mais qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut... Moi, j'ai été 23 ans conseil régional. Ça fait... j'ai été élu municipal en banlieue. Ça fait presque 12 ans que je suis élu municipal à Paris. Franchement, je ne me souviens pas que j'ai... À part quelques homophobes qui peuvent vous insulter dans la rue ou des choses comme ça. Mais au contraire, moi, quand je suis dans les bureaux de vote, les gens viennent me saluer, me remercient pour mes combats. Donc, je pense que sur l'homosexualité, ça a avancé. Par contre, sur le VIH, le boulot, il est toujours là.
Je dis ça parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vois tes publications et tu es très présent sur les réseaux sociaux. Mmh. Puis tu fais avancer ou du moins, tu mets en évidence des causes, des sujets, des projets, notamment les causes trans et tout ça. Mmh. Et je vois aussi les commentaires. Ouais. C'est scabreux.
Encore, moi, je ne vois pas tout parce que, par exemple, sur Twitter, où maintenant je suis moins comme tout le monde, enfin sur X, parce qu'il n'y a plus que des fachos qui viennent mettre des commentaires. C'est peut-être ce qu'il faudra que je fasse. J'ai mis un bodyguard, enfin une application qui m'évite de voir les choses les pires. Mais quand j'étais à la Pride de Budapest, mais c'est horrible, tout ce qu'on peut lire, ce que les gens peuvent écrire. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'a sidéré de voir cette haine. On inaugure, puisqu'on a fait un travail de mémoire ici autour et des personnes LGBT et du sida, etc. Et on inaugure la plaque du premier bar gay de Paris qui a ouvert en 1978, qui s'appelait Le Village. On fait cette inauguration, mes collaborateurs me filment en train de faire mon discours et je mets ce discours sur TikTok. En quelques minutes, des dizaines de milliers, alors je crois qu'il a dépassé largement les 110 ou 120 000 vues. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Des milliers de commentaires, mais quasiment que des trucs de haine, des menaces, notamment contre le lieu, avec des gens qui disent on va venir avec une voiture bélier pour démolir cet endroit et tout ça. Et j'étais sidéré quand même de cette haine. Je suis habitué, mais en quelques heures... alors, je ne sais pas si c'est l'algorithme de TikTok qui a fait ça, que de la haine.
Ouais.
que de la haine.
Oui, j'ai vu ça.
Et pour moi, ça reste quelque chose d'incroyable parce que moi, je vois dans la rue, par exemple, beaucoup de gens me reconnaissent, je prends le métro, etc. J'ai quand même plutôt des gens qui viennent dire merci. Voilà, après, il y en a quelques-uns, je vois bien qu'ils me regardent de travers. Mais je ne suis pas tant insulté que ça. Par contre, sur ces réseaux sociaux où ils se croient totalement anonymes, les gens se permettent des choses. Et moi, je comprends que pour les jeunes, ce soit difficile. Tu sais, j'enseigne aussi dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC, où j'aime bien aller parce que c'est intéressant de toujours voir des jeunes de 20 ans, de comprendre et tout. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai des jeunes étudiants à moi qui viennent me voir en me disant, vous savez, bon, qui aiment bien mon parcours et tout. Et ils me disent, vous savez, monsieur Romero, vous avez beaucoup de chance, vous. Votre jeunesse, tout ça, vous, vous ne vivez pas ce que nous, on vit. Avec l'homophobie, la transphobie, etc. Alors, je les regarde, je dis, je sais que c'est difficile avec les réseaux sociaux, mais vous savez, moi, déjà, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà mes amis qui mouraient du sida.
Ouais.
Hein, et on disait que c'était une punition divine. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je peux vous dire que quand vous aviez un problème, par exemple, vous alliez dans un lieu de drague, que vous faisiez tabasser, bah, vous, si vous alliez au commissariat, ils vous tabassaient aussi.
Ouais.
Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la société a quand même considérablement évolué. D'ailleurs, dans les années 80, en France, quand le monde qui a toujours posé cette question pendant des années, demandait si vous avez des enfants homosexuels, est-ce que vous le toléreriez ? 80% des gens disaient non. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Mm-hmm.
Donc, la société a progressivement, mais une partie de ces jeunes pensent que c'est pire qu'avant, parce que c'est vrai que ce fil de ces réseaux sociaux, qui aurait pu être le meilleur, devient dans bien des cas le pire, mais ça ne représente pas la réalité de la vraie société. Toi qui as écrit des tas de livres, qui fais des dédicaces, des choses, si tu fais un événement Facebook, tu vas avoir plein de gens qui t'annoncent qu'ils vont venir, puis tu te rends compte que tous ces gens-là ne viendront pas.
Ouais.
Donc on voit bien que du virtuel à la réalité, il se passe bien des choses. Mais je comprends que ce soit dur pour les plus jeunes. Mais en même temps, on ne peut pas dire que, ni en France, ni au Canada, être homosexuel et être homosexuel en politique est plus difficile en 2025 qu'avant. Reste le VIH, oui. Et là-dessus, bah, le travail, il faut qu'on continue inlassablement, comme tu le fais, comme j'essaye de le faire.
Je reviens parce que c'est quand même rassurant ce que tu dis. J'avais l'impression que les réseaux sociaux avaient empiré la situation, mais probablement qu'elles démontrent le côté le pire, mais ce n'est peut-être pas majoritaire. Est-ce qu'on peut attribuer ça aux réseaux sociaux seulement ou à la montée de ces politiciens populistes de l'ultra-droite, de l'extrême droite?
Bah, de toute façon, l'élection de Donald Trump, cette fois-ci, a donné lieu à une explosion notamment de transphobie absolument délirante dans le monde entier et à légitimer des politiques qui se disaient un peu plus modérées à tenir des propos. Et le prétexte, c'est les trans aujourd'hui. Mais moi, je le dis à ceux qui disent dans la communauté LGBTQIA+, oui, bah, les trans, bah non, les trans, c'est la même communauté que nous. Et ce qu'on fait aux trans, ça vous viendra aussi. Parce que ça se passe toujours comme ça. On voit d'ailleurs en Italie, on a l'extrême droite. Qu'est-ce qu'est les premières mesures qu'a pris cette première ministre d'extrême droite? Ça a été d'enlever des droits aux couples de femmes lesbiennes. Voilà, c'est cette réalité-là. Et que les gays qui pensent qu'ils sont totalement épargnés et qui auraient une vision, je ne sais pas moi, particulière et totalement juste identitaire, oubliant que les autres lettres de notre acronyme, je pense qu'ils ont vraiment tort. Ils ont vraiment tort. Et on a un changement de climat, un changement de discours politique et une libération. Nous, en Europe, on était protégés quand même un peu par ça. Et puis en plus, on a quand même, nous, des lois qui pénalisent les propos homophobes. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas non plus dire les mêmes choses que ce que dit Trump.
Ouais.
Parce que sinon, chez nous, on va devant les tribunaux. Et heureusement. Mais ça a libéré. On a eu une proposition de loi au Sénat sur les mineurs trans qui a été adoptée. Et on a régulièrement, en tout cas sur les trans, un discours qui est très inquiétant et qui est un discours mondial. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut serrer les coudes, parce que le progrès, il n'est pas linéaire. Hein. On peut avoir des retours en arrière.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Entrevue.
Ce qui se passe en Hongrie, qui est quand même un pays au sein de l'Europe, qui normalement ne peut pas interdire une manifestation pacifique pour des gens qui défendent des droits. Orban l'a fait, même si il a pris une claque parce qu'il y a eu 200 000 personnes, ce qui est inimaginable dans un pays de 9 millions d'habitants. On n'a jamais vu autant de, comment dire, de personnes. Mais il a changé sa constitution pour interdire le mariage, pour interdire entre guillemets la propagande LGBT comme les Russes l'ont fait. Il copie tout ce que fait Poutine. Et ça, c'est en Europe. Ouais. Donc je le dis, faisons attention, parce que dans nos pays, la contamination de ces dirigeants populistes, Trump, Orban, Erdogan en Turquie, Poutine, la situation en Russie, en Chine, enfin tous ces gens-là sont quand même des dirigeants qui prônent une homophobie, je devrais dire LGBTQIA plus phobie, mais bon, je résume comme ça, d'État. Oui. D'État. Les personnes LGBTQIA+ du monde entier ont intérêt de dépasser certaines de leurs différences pour travailler ensemble, parce que on le voit, quand on travaille ensemble, bah, ça fonctionne. Hein. Quand on a tous été solidaires de la Hongrie, eh ben, ça a donné toutes les villes d'Europe qui sont allées les soutenir, plus de 70 parlementaires européens, et puis des centaines de milliers de Hongrois qui ont résisté.
Si tu n'avais pas été outé, hein, on parle de cette expression, qu'on n'aurait pas, si on n'avait pas divulgué ton homosexualité contre ton gré, contre ton consentement, aurais-tu eu ce même engagement que tu as eu maintenant?
Bien sûr, parce que j'ai toujours été militant, toujours été aux marches. J'avais déjà créé élus locaux contre le sida, mais c'est vrai que je n'avais pas dit officiellement « je suis homosexuel ». Et je devais le faire à ce moment-là, dans une interview au Monde qui était prévue, dans laquelle il y aurait eu des questions, plein de questions sur les questions de société en général, et au milieu, j'aurais dit « oui, je suis homosexuel ».
Alors on a tiré le tapis sous le pied.
Et on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « On m'a volé ma vérité ». Et c'est un journaliste qui me voulait du mal, qui s'est très mal comporté et qui a fait que son article a été déposé, enfin en tout cas ce journal, qui était pourtant un journal gay, gratuit, etc., a été envoyé quasiment à tous les journalistes qui comptent. Et donc j'ai dû me défendre, ce qui était quand même un peu terrible. Moi qui a été au moment où j'allais faire mon coming out, je me suis retrouvé dans cette situation alors que j'avais rien à me reprocher. Et ça a été dans la pire des situations, parce que c'était le moment où on avait les débats sur le PACS en France, qui était extrêmement violent. Et il y avait ACT UP, le mouvement de lutte contre le sida, qui disait qu'il allait dénoncer un élu qui avait homosexuel qui avait participé aux manifs contre le PACS. Cet élu, qui est devenu ministre de la Culture après, ce n'était pas moi. Sauf que c'est sorti, beaucoup de gays qui ont fait l'amalgame, et j'ai reçu des tas de lettres d'insultes en disant « c'est une honte, vous allez dans les manifs et tout », alors que moi j'étais dans le collectif pour le PACS depuis le début, j'en étais membre, je faisais des réunions avec eux, etc., je faisais des réunions en province et j'avais rien à me reprocher. Donc ça a été très violent parce que c'était extrêmement injuste et que c'était à moi, au moment où j'allais le dire. Je rappelle, on est quand même dans le contexte de avant l'année 2000, enfin dans les années 2000, dans un contexte où ici en France, il y avait juste Bertrand Delanoë qui venait de dire son homosexualité. Voilà, donc c'était pas aussi simple non plus que ça, et j'allais le faire et on m'a coupé l'herbe sous le pied. Alors ça a changé quelque chose, c'est que en fait moi je voulais depuis le début ne pas parler de mon... Enfin si, j'en aurais parlé forcément, mais je voulais parler de ma séropositivité parce que je trouvais que c'était important, parce que je m'étais engagé très tôt dans la lutte contre le sida, très, très, très jeune, quand Lynn Renault a créé, la chanteuse Lynn Renault, très populaire en France, qui a fait une chanson qui s'appelle Ma cabane au Canada, avait créé les artistes contre le sida. Moi, j'avais 19-20 ans et je mettais sous enveloppe les invitations. J'étais proche de Lynn, dont je suis toujours resté proche, qui est une amie vraiment très, très chère à moi. Et donc, j'étais très, très engagé dans ces combats et je voulais dire ça. Et autour de moi, donc, mon compagnon de l'époque était absolument opposé. Il était séro-négatif, lui. Il me dit « oui, moi, je ne veux pas, parce que ça veut dire qu'on va aussi me dire que je suis séro. Ça me concerne, je ne veux pas que tu le fasses. » Ma mère était terrorisée à cette idée-là. Mon propre médecin, qui était Willy Rosenbaum, qui est le co-découvreur du virus, me disait « moi, je pense que c'est t'as pas intérêt à dire ça. Et puis Sheila, qui est une chanteuse française, qui est la présidente d'honneur des élus locaux contre le sida que je préside, me disait aussi, mais pourquoi t'as besoin de le dire publiquement? Et moi, je leur disais, mais attendez, je vais partout en disant que c'est pas un virus honteux, que c'est pas une maladie tabou, et en même temps, je le dis pas moi-même. Je dis, il y a un moment, pour moi, ça devient difficile. Ça devient compliqué. Et donc, il m'avait plus ou moins convaincu à ce moment-là. Et puis, il y a eu cet outing. Et après, je me suis dit, là, j'ai pas envie que demain, quelqu'un dise que je suis séropos à ma place. Parce que franchement, ce combat, je le porte depuis que je suis séropos, depuis que j'ai perdu tous mes amis du VIH. Et j'aurais trouvé ça extrêmement violent. Et donc, c'est comme ça qu'après, je l'ai dit, que j'étais en 2002, que j'étais séropositif. Et je pense que ça, je le regrette pas et que ça m'a... sûrement d'abord donner plus de crédibilité dans ce combat que je menais, parce qu'au moins quand je parle de choses, des traitements et tout, je sais ce que c'est, hein, parce que je les teste, que j'ai connu les pires choses comme les meilleures. Et donc ça me donne une certaine crédibilité, et ça, peut-être que ça a amplifié les choses, j'en sais rien. En tout cas, moi je sais que le jour où j'ai appris que j'étais séropos, j'avais 27 ans, je savais que je ne ferais pas une carrière comme tout le monde, parce qu'à cet âge-là, je ne pensais même pas que je connaîtrais mes 30 ans. Donc si tu veux, je ne pouvais pas imaginer faire une carrière politique classique. Et je savais que forcément, je prendrais des engagements forts parce que j'étais dans une espèce d'urgence. Comme toutes les personnes qui, à cette époque-là, découvraient leur séropositivité parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de traitement et que la plupart d'entre nous, nous mourions dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Donc je pense que au-delà, cette révélation n'a pas été, moi, ce qui a changé ma vie, c'est ma séropositivité. Peut-être que si je n'avais pas été séropositif, j'aurais peut-être été un connard d'élu qui aurait pensé qu'à faire carrière, à avoir le plus d'argent possible, le plus de responsabilités, enfin d'honneur surtout.
J'ai difficulté à croire ça, Jean-Luc.
Ouais, mais peut-être, mais j'en sais rien.
On sait jamais,
j'en sais rien. J'aurais peut-être été un sale type, hein, qui ne pensait qu'en politique, j'en connais quelques-uns, quoi, qui pensent qu'à leur carrière, qui sont prêts à marcher sur tout le monde. Peut-être que j'aurais été comme ça. En tout cas, moi, je suis sûr que ce virus... Alors, c'est terrible, parce que je ne veux pas dire aux gens, surtout, vous vous infectez pas au VIH. Mais moi, ce virus, il m'a rendu meilleur. J'en suis persuadé. Et puis, il m'a permis sûrement... Tu vois, si demain, je meurs, qui peut, ce que je veux, c'est pas mourir dans la souffrance. Hein, je me suis assez battu pour le droit de mourir dans la dignité. Il m'arrive un accident, j'ai une crise cardiaque et tout. Mais je dis aux gens, mais... ne pleurez pas, j'ai eu une super vie. Parce que j'ai vécu vraiment le moment présent. Ce qui est très difficile dans nos sociétés. C'est possible en Thaïlande, dans les pays bouddhistes, mais dans nos pays à nous, c'est très compliqué. On est toujours, voilà, il faut toujours anticiper, etc. Eh bien, grâce à ce virus, moi, j'ai toujours su qu'il fallait profiter du moment présent. Et donc, je n'ai aucun regret. J'ai fait tous les voyages que je voulais faire et je continue à en faire et j'en ferai tant que je pourrai encore parce que j'adore voyager. J'ai fait toutes les choses que j'aimais. Je ne me suis privé de rien, donc j'ai pas de fortune personnelle parce que j'ai dépensé mon fric au fur et à mesure. Mais je n'ai aucun regret. Et ça, peut-être que si j'avais pas eu ce virus, j'aurais fait comme beaucoup. J'ai pas d'appartement à Paris parce que j'avais pu m'en acheter parce que il aurait fallu dès le départ que je le fasse. Mais au final, j'ai pas de regret de ça parce que je ne me suis pas privé et j'ai vécu comme j'avais envie de vivre et j'ai peut-être plus fait attention aux gens que j'aimais autour de moi. Voilà, ce virus m'a rendu meilleur et je crois que c'est ça qui m'a changé, que cet outing, c'était un moment très désagréable parce que je trouvais que c'était très injuste, moi qui portais ces combats depuis toujours, de me retrouver dans cette situation d'accuser avec des gens, à l'époque j'étais pas très connu, de gens qui me découvraient, qui me prenaient pour une espèce de pédé honteux, donc c'était dur, en plus qui se trompait avec quelqu'un qui était allé une manif homophobe, que ce que j'ai jamais fait de ma vie évidemment, mais voilà, donc c'était un moment difficile de ma vie, c'est vrai, je le reconnais, mais ce qui m'a vraiment fait changer, c'est le VIH. Et au final, je sais pas, 87 aujourd'hui, presque 40 ans plus tard.
39 ans, ouais.
30, je me dis que ce virus, vraiment, il m'a aidé à vivre mieux.
Tu portes aussi le combat du chemsex.
Oui.
Alors, pourquoi le chemsex, c'est quelque chose qui t'interpelle?
Alors bon...
tout
le monde pense que c'est quand même que après la mort de mon mari Christophe, qui est mort au cours d'une soirée chemsex, que je me suis engagé, mais mon engagement et préalable. Il s'est juste vraiment extrêmement renforcé après, puisque j'avais conscience de ce qui se passait, que j'ai été un des premiers élus à m'intéresser à la question, qu'élus locaux contre le sida, qui est une association que je préside, a été aussi une des premières associations à sensibiliser sur la question. Et puis m'arrive en mai 2018, ce drame où mon mari meurt au cours d'une séance de Chemsex, et dans lequel je me suis dit, mais moi j'ai pas envie qu'il y ait d'autres Christophe qui meurent, quoi. Et il faut qu'on se bouge, et personne n'en parle, c'est un sujet tabou dans la politique, et j'avais un peu l'impression qu'on était comme au début des années sida, parce qu'on croyait que ça touchait que les gays.
Les gays qui s'envoyaient en l'air. Hein,
voilà. Que donc personne s'y intéressait. Il faut quand même savoir qu'en France, il a fallu attendre 1987 pour que Mitterrand dise le mot sida, et que c'est un peu grâce à Chirac qu'on a eu enfin en 87 une année grande cause nationale, qu'on a enfin permis la vente libre des seringues qui était interdite jusqu'en 87. Donc t'imagines l'épidémie qu'on a eue chez les usagers de drogue jusqu'à cette époque-là. La publicité sur les préservatifs était aussi complètement interdite, c'est complètement aberrant. Et j'avais un peu cette impression-là. Aujourd'hui, en France, et je vois globalement dans le monde, parce que moi, quand j'étais à Budapest, là, récemment, on a eu une réunion avec tous les élus des grandes villes européennes. Et je me suis rendu compte que Paris, avec un peu Amsterdam, est une des rares villes à avoir un plan stratégique sur le chemsex. Quand j'étais à la Montréal, ça a peut-être changé depuis, j'avais vu la municipalité, à New York, pareil. Ils soutiennent des assos qui font un peu du travail, mais les mairies ne sont pas vraiment impliquées dans un problème dans lequel j'estime qu'elles sont là parce qu'elles peuvent jouer le rôle de coordination. Nous, c'est ce qu'on fait à Paris avec un comité stratégique où il y a les associations, les institutions sanitaires, l'enseignement, etc., le corps médical, les centres de santé sexuelle. Et on essaye de travailler ensemble, de mieux se coordonner. On est la seule ville au monde à avoir sur le site officiel de la mairie une cartographie qui permet à une personne qui pratique le chemsex de savoir où aller tester ses produits, où aller chercher du matériel d'injection, parce que de plus en plus slam, comme on dit, oui, c'est-à-dire se l'injecte, pour aller dans des groupes de parole s'ils ont besoin de parler, ou pour aller se faire soigner s'ils ont envie de se sortir de cette addiction. D'accord. Et nous, on a ça, vous allez sur le site de la mairie, en plus il vient d'être étendu au département de la Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Et je crois que c'est la seule, quand j'en parle à mes collègues des autres pays, je viens d'en avoir plein, ils disent « Ah bon, vous avez mis ça ?» C'est sur le site. Je dis « Bah oui, est-ce que c'est notre rôle aussi de donner l'information sans stigmatisation ?» Parce que la stigmatisation ne marche pas.
On est dans la réduction des méfaits, finalement.
Nous, on appelle ça ici en France la réduction des risques.
Donc oui, il y avait beaucoup, beaucoup à dire avec Jean-Luc Romero-Michel. Je promets qu'on va proposer d'autres extraits de ce long entretien avec lui à l'occasion d'autres épisodes de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Après la pause, ça sera donc la chronique santé aux petits soins avec Gengis Grenier. On va parler de la famille comme source de stress pour les personnes vivantes, les personnes de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Et puis on va parler des mangas queer côté geek avec Philippe Aubert côté.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé.
Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet délicat, Gengis. Ici, le facteur de risque principal en santé mentale chez les personnes de nos communautés, donc queer, LGBTQIA+, là, c'était pas l'homophobie sociale, mais celle de la famille.
La famille, les dynamiques familiales narcissiques, un problème trop peu abordé, Denis Martin, dans notre communauté. Est-ce que tu te sens d'attaque aujourd'hui?
Oui, on y va.
C'est un sujet sensible. Tu sais, on parle souvent d'intimidation, discrimination, mais on parle moins du fait que pour beaucoup de personnes LGBT+, le premier endroit d'insécurité, c'est la maison.
Et pourquoi?
Pourquoi? Ben, on peut parler souvent, là, on ne mettra pas toutes les familles dans le même panier. Hein? Il y a des familles dans lesquelles ça se passe bien. Il y a des fois où il y a de la réconciliation, mais il y a des fois où les dynamiques malsaines vont persister. Puis souvent, dans la communauté LGBT, les personnes gays, trans, queer, vont vivre une dynamique narcissique dans laquelle ils vont être confrontés à de la manipulation, à une forme de manipulation émotionnelle, où ce que ça peut se qualifier par plusieurs choses. Si je pense à un de mes meilleurs amis, tu sais, qui est très affiché, qui est très impliqué dans la communauté, il m'a montré un espèce de long message reçu de sa sœur.
Ah ouais,
sa sœur qui est contre le fait qu'il s'affiche en public, qui est contre le fait qu'il met des photos avec des personnes ouvertement LGBT, puis lui dit en résumé, si tu ne retires pas toutes les photos, si tu changes pas ta personne, si tu continues de t'afficher publiquement, ben tes nièces, tu les reverras plus.
Donc, de la manipulation, mais quand même, en 2026, ça se passe encore.
Chantage émotionnel où ce que plusieurs membres de notre communauté, puis ma clientèle m'en parle beaucoup. Moi, le mois de décembre, là, le mois avant Noël, Denis Martin... Là,
le pire mois.
J'ai droit à toutes les confidences.
Ah oui? Hein?
Ah oui, tu sais, les gens voient le temps des fêtes approcher, puis... Là, tu sais, toute l'année, c'est les parties, c'est Puerto Viagra.
Vallarta, mon bon.
Puerto Vallarta, puis le Brésil, puis tout va bien à longueur d'année. Mais le mois avant Noël, on rentre en confidence, on peut s'exprimer un peu plus sur nos dynamiques familiales toxiques, ce que j'appelle les dynamiques familiales narcissiques, où ce que on se retrouve un peu pris entre l'arbre et l'écorce.
Alors pourquoi ça semble être... Parce que là, on s'entend, on n'est pas les seuls, les personnes queer, à subir ce genre de famille-là, parce que c'est quand même pas mal partout. Pourquoi c'est pire pour les communautés queer?
Je dirais que dans une famille, on est les personnes qui ne se reproduiront pas.
Ouais.
On n'amènera pas du nouveau à la famille.
On est clairement en marge.
On est clairement en marge, puis on n'amènera pas un phénomène de renouveau avec des petits-enfants plus souvent qu'autre chose. Là, je ne mettrais pas tout le monde dans le même panier, mais il y a...
Parce qu'il y a des familles queer qui ont des enfants.
Oui, quand même. Oui, il y a des familles homoparentales, là, ils sont existantes. Mais tu sais, la plupart d'entre nous vont faire le choix de ne pas avoir d'enfants pour des raisons de simplicité, puis pour se réapproprier une vie souvent qui nous a été enlevée. T'sais. Dans le temps des fêtes, il y a la manipulation classique qui revient. T'sais, c'est « Ah, ben là, si tu viens pas nous voir, on se reverra pas. » Ça paraît rien, cette petite phrase-là, mais c'est renvoyer tout le poids sur les épaules de la communauté LGBT.
La charge mentale.
La charge mentale, ouais. Que si tu fais pas l'effort, on se reverra pas. Mais tu sais, ça veut aussi dire que si on ne veut pas visiter notre famille fera jamais l'effort de venir nous voir. Ça, c'est un discours qui revient souvent, ça, dans mon bureau. Les 4 semaines avant Noël, tu sais, il va falloir que je me déplace. Il faut que j'achète des cadeaux pour mes neveux et mes nièces. Mais tu sais, en bout de ligne, quand ils reviennent, ces patients-là, en janvier, ben tu sais, personne ne leur a offert de cadeaux. Ça leur a coûté 2 000 $ en déplacement, en cadeau et tout. Puis,
et en santé mentale.
Et en santé mentale, parce que, tu sais, dans le fond, on se donne corps et âme pour notre famille, puis on n'est jamais à la hauteur, finalement. Ouais. Tu sais, on se fait toujours remettre au pied du mur en disant que si on ne fait pas les efforts, si on se déplace pas, tu sais, ça va être de notre faute si ça fonctionnera pas. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
Donc, ça amène des problèmes, des enjeux de santé mentale. Et ça a l'air de rien, mais ça peut affecter la santé de la personne.
La santé mentale, tu sais, ce phénomène-là d'exclusion, ce phénomène-là où ce que la famille devient un levier de contrôle sur soi, où ce qu'on devient un peu, où ce qu'on internalise un peu une honte, où ce qu'il y a un double message aussi, tu sais, je vais t'aimer si tu ne t'affiches pas. Je vais t'aimer si tu te déplaces. Je vais t'aimer si tu fais des efforts.
Alors, si tu viens, amène pas ton chum, ou si tu l'amènes, vous bécotez
pas. Hey, ça, c'était... Ça, j'ai un ami qui me racontait, qui me faisait une confidence là-dessus. Il me dit, tu sais, Genji, il dit, moi, je peux amener mon chum à Noël chez moi, mais on peut pas se coller, on peut pas s'embrasser parce que j'ai des neveux puis des nièces, puis mes frères, mes sœurs veulent pas que leurs enfants soient exposés à ça, tu sais. Hey, c'est quelque chose, t'es avec ton conjoint, puis là, faut faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, puis en plus, la famille va le présenter comme un ami.
Un ami, ah oui.
Quel culot! Pareil, hein?
Oui. Mais en fait, c'est intéressant, j'ouvre une parenthèse, mais les enfants, donc, ne sont pas exposés à des modèles des modèles, des personnes modèles positives. Et si ces enfants-là s'avèrent pour être gays ou lesbiennes ou quoi que ce soit, ben ils grandissent sans avoir connu, alors qu'ils auraient pu être exposés puis d'avoir eu un impact positif.
Un modèle positif, personne de référence, tu sais. Tout ça sur notre poids, qu'est-ce qu'on constate dans la communauté, tu sais? Oui, on a un penchant pour les festivités, pour s'éclater, pour oublier tous ces petits problèmes-là. Au travail, Denis Martin, on s'entend qu'on est tous des modèles d'hyper-performance.
Oui.
On veut chercher la gratitude, on veut obtenir l'approbation, on veut se faire valider. C'est toutes des choses qui vont peser finalement là, en bout de ligne sur notre santé mentale individuelle, mais tout à la fois collective aussi.
T'sais. Donc, on reproduit ce modèle-là, puis moi, je t'avoue, ce que tu viens de dire là, ça me ressemble beaucoup hein, au niveau du travail.
On se rejoint tous là-dedans, je pense bien.
Mais donc, ce poids sur la charge mentale des personnes gays, des personnes queer, ben comme je dis, c'est un impact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Moi, je trouvais, ce que je vais dire, je la trouvais un peu fataliste, cette solution-là. Puis, tu sais, avec le temps, tu sais, à écouter mes patients, à écouter mes amis, mettre ses fucking limites, tu sais.
Oh, c'est un gros mot, ça, oui. Mettre ses limites, oui.
Mettre ses limites, tu sais, dans le sens où ce que... Si on fait des efforts puis qu'on n'a pas le retour de balancier, puis tu sais, se faire dire ben fais ci puis ça va se passer comme ça, tu sais, dans le fond on est des adultes. Tu sais, moi j'arrive à 40 ans, tu sais, puis c'est sûr que me faire infantiliser à 40 ans, c'est un peu difficile.
Ouais.
Moi, si tu fais ci, ben ça va se passer comme ça. Puis moi, je vais accepter si tu fais ça, si tu fais ci.
Ta famille écoute, là, ce qu'ils vont, ils vont réagir, là?
Non, moi, ma famille, j'étais en mode réconciliation avec eux. La réconciliation a eu lieu là, quand même un certain moment, mais il y a encore des fois, comme dans toutes les familles, des dynamiques qui peuvent être un peu plus difficiles. Tu sais, un heads-up aux familles où il y a une personne LGBT, puis... Tu sais, dans la fratrie, des fois, c'est pas juste la relation avec les parents. S'il y a une autre personne qui a une personnalité difficile puis qui va instaurer une dynamique d'autant plus complexe parce qu'il y a déjà l'enfant LGBT ou le frère LGBT à gérer. Là, si jamais tu avais une sœur ou un frère qui rajoute une composante difficile avec les parents ou avec d'autres membres de la fratrie, puis qui, tu sais, on peut subir un double rejet.
Oui.
Ou tu comprends ce que je veux dire?
Et puis je vais encore ouvrir une parenthèse parce que je l'ai vécu, moi, dans ma famille, et je n'aimerais pas parce que moi aussi, ma famille écoute, mais je me rappelle, à un moment donné, on m'a dit, ben là, on te laissera pas garder notre fils. Tu sais, après tout, t'es gay. Et, tu sais, ça venait pas... Je pense pas que c'était méchant, mais ça, je l'ai très mal pris. J'ai jamais rien dit là-dessus.
Dans ton cas, à toi, ils ont eu quand même le courage de te le dire.
Ouais.
Moi, dans mon cas, jamais que je suis sollicité pour garder mes neveux, mes nièces, puis ils vont toujours trouver des excuses. Ben non, c'est parce que t'es toujours occupé, Genghis. Tu vois, ils renvoient la faute comme si c'était de ma faute que...
Et moi, sur le sujet sans ça, il y avait le fait que j'ai le VIH aussi, qu'on avait peur d'exposer les enfants.
Des fois, je me demande, ils ont-tu peur qu'on les agresse sexuellement? c'est quoi leur peur qu'on puisse être le gunkle, tu sais, l'oncle gay qui font rire et qui anime les neveux puis les nièces. Moi, ça me fascine, ça va toujours me fasciner, ça, le fait que mon frère me demande jamais de jamais. Puis quand que je demande pourquoi tu me... En fait, moi, j'ai demandé à mon frère, je dis, pourquoi tu me demandes jamais de garder tes enfants? Est-ce que t'as peur que j'agresse sexuellement ton fils? Est-ce que t'as peur que... Je sais pas. Raconte-moi pourquoi tu me le demandes pas. Il dit, ben là, Genghis, il dit, c'est à cause que t'es trop occupé, tout ça. Puis pourtant, la fin de semaine, tu sais, je fais mon lavage, puis j'occupe mon temps comme tout le monde, là,
tu sais. Si t'as besoin de lavage, je peux te refiler le mien aussi.
Tu sais, fait que... C'est toutes ces petites dynamiques-là qui peuvent venir nous mettre un poids supplémentaire sur les épaules. Puis là, des fois, il peut y avoir un poids supplémentaire quand tu as un membre de ta fratrie ou un parent qui va compliquer les choses avec d'autres types de manipulations, de mensonges. Bien, ça nous rajoute un double poids sur les épaules parce que, tu sais, en bout de ligne, si toute cette dynamique-là familiale est plus difficile, est-ce que c'est à cause de nous?
Ouais.
Cette question-là, on va se la demander tout le temps parce qu'on a toujours l'impression, on nous donne toujours l'impression que c'est toujours à cause.
Mais c'est comme ça qu'on est socialisé. Maintenant, bon, tu parles d'établir ses limites. Ça veut dire aussi de faire un certain deuil vis-à-vis la famille idéale.
On parle de deuil invisible.
Oui.
Tu sais, parce que le modèle de la famille idéale, la plupart d'entre nous, surtout, tu sais, les milléniaux et avant moi, on la connaîtra jamais. Tu sais, on est capable d'avoir une idée, on est capable de regarder un film. C'est ce qui nous rend sensible, justement, quand on regarde le cinéma. T'sais, on se dit, ah, ben, tu sais, ça aurait pu être ça. Mm-hmm. Mais ça le sera jamais, tu sais. Fait qu'on va parler un peu plus de famille choisie. Hein? La famille choisie, on a cette résilience-là dans la communauté de pouvoir se rebâtir, de se réentourer de gens bienveillants qui nous manipuleront pas, qui nous feront pas sentir coupables à la moindre occasion, puis qui vont nous donner de l'amour, chose que des fois on ressent, qu'on a moins l'opportunité de vivre avec notre propre famille immédiate. Fait qu'on a ce qu'on appelle une famille reconstruite. Puis moi, j'encourage vraiment tout le monde. T'sais, c'est les gens qui sont pas capables de se retrouver avec une famille saine, qui vivent une dynamique narcissique ou qui sont toujours les coupables de tout et de rien, ben, de vraiment plus de s'entourer de leurs amis puis de mettre une limite
oui.
à leur famille biologique. Là,
on conclut ça comment?
On conclut ça qu'il faut garder espoir, Denis Martin. Tu sais, moi puis mon espoir, j'aime ça.
Ce n'est pas niaiseux, c'est très bon.
Tu sais, dans le sens où ce que moi, j'encourage les gens à mettre une limite. Tu sais, je dis pas de couper tout contact. T'sais. Mais par exemple, je vais te visiter une fois, mais tu sais, je vais attendre en retour que tu viennes me visiter une fois également dans l'année, tu sais, que ça soit pas juste une relation à sens unique.
Merci beaucoup, Gengis, à la semaine, au mois prochain.
Bye bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert-Côté.
Salut, salut Philippe Aubert-Côté, comment ça va?
Ça va bien, je pensais que j'allais avoir le droit à une chanson d'Astro le petit robot, moi pour
j'ai manqué un peu de temps pour préparer tout ça, mais j'y ai pensé. Alors donc, on va parler de manga queer aujourd'hui.
Ouais, de manga queer.
Alors, explique-nous.
Ben, pourquoi les mangas? D'abord, on a chaque génération a une icône japonaise. Hein.
Ouais.
De même, tu sais, les baby boomers, ça a souvent été Godzilla ou Ultraman. Oui. C'était le coup de cœur de ma marraine, d'ailleurs.
Ultraman, oui.
Exact. Il y a la génération X qui a beaucoup connu Goldorak, hein, oui. Le robot géant. Moi, la mienne, c'était Astro, le petit robot, là, qui était présenté à Radio-Canada avec un concours pour gagner un voyage au Japon.
Puis là, participé, c'est clair, hein?
Pardon?
T'as participé, c'est clair, hein?
Je savais même pas comment on envoyait une lettre à la poste à l'époque, donc...
De nos jours, ils savent même pas c'est quoi la poste. Okay, on continue.
Autre génération. Ouais. Puis il y a la génération Z, ben là, qui en a connu plusieurs, mais là, on va passer aux Pokémon, qui ont fêté leurs 30 ans.
Quand même.
Ah oui, puis c'est mignon. D'ailleurs, mon chum et moi, on a plein de Pokémon à la maison.
Pourquoi ça m'étonne pas?
Je sais pas pourquoi, mais il faut pas trop que je dise qu'on a beaucoup de Pokémon parce qu'on a peur de se les faire voler. Ils sont tellement mignons. on les garde pour nous. Hein.
D'accord.
Donc, tu sais, on a tous eu au Québec, à chaque génération, un contact avec la culture japonaise. Puis aujourd'hui, ben, le manga, que ce soit la bande dessinée ou l'animation, c'est partout. Hein. Même si je veux entrer en contact avec quelqu'un que je ne connais pas, peu importe l'ethnie ou l'âge, souvent je me mets à parler manga. Qu'est-ce que tu lis, tout ça? Puis ça marche. On fait des contacts facilement.
Ça.
Mais donc, c'est partout. Et ce qui est intéressant, c'est que les mangas, ben, c'est pas juste des choses pour enfants. Ça peut aussi aborder des réalités queer. Et là, je m'étais dit que ça valait la peine de faire une chronique là-dessus aujourd'hui.
OK. Bon, alors, c'est quoi le manga?
D'abord, c'est
quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Donc, le manga, c'est comme ça qu'on appelle la bande dessinée au Japon. Ça peut aussi servir à désigner les films d'animation. Donc, séries ou films tout court. Ceux et celles qui dessinent des mangas, on les appelle des mangaka. Je risquerais d'échapper le mot des fois dans l'entrevue, donc autant le définir tout de suite. Mais c'est aussi une esthétique, le manga. Alors, quand on voit un dessin animé ou une BD japonaise, c'est, on va tout de suite reconnaître des personnages avec des grands yeux mouillés.
Oui.
Hein, très expressifs, hein, qui sont très bien travaillés. Ça va être des personnages avec des traits très épurés aussi. Là, pas beaucoup de détails pour qu'on puisse s'identifier facilement à eux. Hein? Ça va être aussi, pour les puristes, un sens de lecture des cases de droite à gauche, qui est à l'envers de ce qu'on lit en Occident. Ça a l'air très difficile au début, mais on s'y habitue, hein? Puis ça devient une seconde nature. Les mangas vont aussi avoir des intrigues très complexes, très étoffées, où même les antagonistes ont le droit à leur histoire, à leur background. Donc, des fois, la dichotomie bon versus méchant qu'on voit dans les récits occidentaux est un petit peu brouillée, là, ce qui peut dérouter certaines personnes. Puis, dans les mangas, moi, ce que je trouve fascinant, c'est le mélange de genres. Hein? on peut retrouver dans la même histoire du sexe, de l'horreur, du rire, de l'émotion, de l'exubérance, du calme, de la violence dans le même récit, et ça marche. Alors que des fois, on a tendance à séparer ça en accident, à dire que ça se mélange pas.
Alors, les mangas, ça a beaucoup dérangé?
Oui. À l'époque de Goldorak, justement, que tu as connu, c'est quand c'est qu'on a commencé à diffuser ces dessins animés-là en Occident, surtout en France. Mais là, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'au Japon, les films d'animation, on ne les considère pas comme étant strictement réservés à la jeunesse. Il y a des longs métrages animés qui sont pour les adultes, qui vont raconter des histoires policières ou de mœurs ou autres. Il peut y avoir de la violence et de la nudité aussi dans les mangas parce que la relation à la violence et à la nudité n'est pas la même qu'en Occident. Donc, il y a des mangas qui étaient pour les adultes ou les adolescents matures qui ont été diffusés auprès du grand public sans cérémonie, puis on ne le savait pas, et ça a traumatisé. Même Astro, le petit robot, la version qu'on avait ici était édulcorée, remontée pour gommer certaines scènes. Moi, adulte, j'ai redécouvert la version originale en DVD telle qu'elle avait été faite au Japon. Et le dernier épisode m'a traumatisé.
Ah oui, pourquoi?
Je refuse d'en parler.
Ah oui? Bon, OK. Alors, peut-être que les gens vont devoir nous écrire pour savoir. On va faire une pétition.
Il va falloir me payer cher.
OK. Donc, on continue. Les mangas, donc, la sexualité, tout est là-dedans, là.
Tout est là-dedans. C'est que il y a... Et ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, la nudité, la sexualité, la violence ne sont pas perçues de la même façon qu'ici. Il y a pas... Ça n'a jamais été condamné comme en Occident. Parce que dans les religions japonaises, il n'y a pas de péché originel qui nous dit que le sexe est mal, tout ça. Donc, dans les récits japonais, romans ou mangas, on a abordé ces dimensions-là très tôt. Et
donc, allons-y, le phénomène queer dans les mangas.
Oui, c'est que au Japon, les relations homosexuelles ne sont pas condamnées avec la même véhémence qu'en Occident.
Ouais.
Et donc, très tôt, dans les années même 50-60, on a commencé à aborder des histoires homoromantiques dans les mangas. T'sais, à l'époque où on sortait de la grande noirceur, nous, on commençait à montrer des personnages gays ou lesbiens dans les mangas au Japon, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, il y en a plusieurs catégories qui existent. Je vais utiliser certains termes, des fois, qui sont un peu controversés, là, des fois qu'on veut remettre en question aujourd'hui. Mais si je vais les employer, c'est parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus en librairie. Donc, si notre auditoire veut s'y retrouver, c'est ceux qu'il faut employer.
Oui.
Donc, vous allez avoir dans les mangas qui sont purement érotiques d'abord, ce qu'on appelle le hentai. Donc, H-E-N-T-A-I.
Oui.
Je vais l'appeler pour être sûr. Donc, ça, ce sont les mangas pornographiques classiques, souvent hétéros. Il peut y avoir des choses très bizarres là-dedans. Donc, je ne l'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est plus bon hétérosexuel.
Et puis c'est bizarre.
Et c'est très bizarre. Il y a des trucs avec des tentacules là-dedans. On va en parler tantôt.
Ouais.
Du côté queer, on a deux sortes fondamentales de manga. Le boys love et le girls love. Donc, le boys love et le girls love représentent des intrigues qui sont soit homo-romantiques ou homo-érotiques. Mais il y avait une très grande diversité de thèmes et d'approches pour raconter ces histoires-là. Des fois, dans certaines œuvres, la sexualité peut être complètement absente. Et des fois, on peut aborder des termes légers ou on peut aborder des termes plus grands, plus graves, comme la coercition ou l'intimidation, des choses qui dérangent aussi. Donc, on va l'aborder aussi sans problème. Donc, comme ça le dit, le girl's love va surtout raconter des histoires d'amour ou érotique entre femmes, et le boy's love, c'est entre hommes.
Ouais. Alors, toi, tu vas t'intéresser au boy's love.
Oui, au boy's love. Le girl's love est très intéressant, mais écoutez, il nous faudrait une deuxième chronique pour en parler. C'est un domaine en soi. Puis c'est sûr qu'on peut comprendre mon bien. Je connais plus le boy's love. Évidemment.
Ah oui, tu m'étonnes.
J'ai un petit biais. Mais aussi, c'est parce que le boys love a une histoire très intéressante. Ce serait à cause du féminisme japonais que ce genre-là aurait émergé.
Ah ben.
Ce qui est complètement contre-intuitif. Mais... Ouais.
Bon, alors, quelle sorte de boys love on va trouver dans les mangas?
Il y en a... Moi, je vais en décrire ici quatre catégories. C'est un petit peu ad hoc pour qu'on se retrouve. Donc, je vais les énumérer, puis je vais y revenir après. Donc, il y a le yaoi, le bara, le manga didactique et ce que j'appelle les bizarreries. Là, les tentacules, on risque de les croiser là.
OK. Okay.
Donc, la première catégorie de boys love dont je vais parler, c'est le yaoi, donc Y-A-O-I. Ce sont des histoires d'amour entre hommes, mais qui sont souvent écrites par des femmes et destinées à un public féminin.
C'est pas étonnant. Il y a beaucoup de romances gays entre hommes. Écrites aux États-Unis, qui sont écrites par des femmes et qui sont lues par des femmes.
Exact. Donc ça, c'est la caractéristique du yaoi. Mm-hmm. Les histoires vont être très romantiques, souvent longues, elles vont être très tortueuses aussi au niveau de l'intrigue. Ça va être très psychologique. On peut comparer ça, les yaoi les plus cheap, ça peut être comme des romans harlequins. Ah. Mais certains vont se rapprocher des grands films d'amour là, qui ont eu des Oscars aussi. Le degré d'érotisme, ça peut varier. Il y a certains yaoi qui n'en ont pas, mais du tout, du tout. T'sais. Puis quand tu as des scènes de sexe là-dedans, ça va peut-être plus se rapprocher du soft porn, comme on dit, où deux hommes vont faire l'amour, mais on voit pas grand-chose. Puis souvent, on va censurer les sexes. Ah. On va les effacer pour laisser des zones blanches vides, pour laisser imaginer de même. Donc,
oui, j'ai déjà vu des vidéos justement où ils mettent des petits. Ils vont pixeliser l'endroit où se trouve le sexe.
Exact. Ouais. Ça revient à ça. Ça, c'est enraciné dans les lois japonaises. En tout cas, il y a toute une explication là-dessus. Mais souvent, c'est pas là qu'on va voir des choses extraordinaires. T'sais, c'est tout dans le non-dit. Souvent, l'intrigue va tourner aussi autour d'une relation entre deux hommes. Normalement, un qui va être plus fort et viril, puis un autre qui est plus faible. Mmh. Puis les hommes vont être minces, ça va être sans pilosité, très élancé, souvent des effets même un peu. Et en avertissement, les intrigues dans les yaoi vont souvent avoir une ou deux scènes de sexualité non consensuelle, parce qu'un des tropes, des clichés des intrigues yaoi, c'est qu'il y a un personnage qui est coincé dans sa sexualité, puis il va se faire réveiller à son côté gay par un initiateur qui est plus viril.
Allô, la culture du viol, hein?
Exactement.
Ouais. Donc, et le consentement, oui.
Et voilà. T'sais, donc, il faut être prêt à voir ça. Donc, tout ça, il y a toutes sortes d'intrigues. Ça peut être des intrigues purement amoureuses, mais ça peut être des intrigues aussi policières. Mm-hmm. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, un yaoi qui s'appelle Réminiscence, que ça raconte la vengeance sexuelle d'un salaryman contre son ancien bouli.
Okay.
Par exemple, donc on peut aller dans les trucs plus policiers. Souvent, les gays vont ne pas se reconnaître dans le yaoi. Ils disent eux-mêmes, très peu de gays, il y en a qui vont lire les yaoi, mais très peu, c'est beaucoup plus un public féminin. T'sais, donc, ils trouvent pas, beaucoup de personnes gays trouvent que ça ne décrit pas très bien les réalités de la communauté gay. Mm-hmm. T'sais. Et une des théories pour expliquer ça, c'est peut-être parce que le yaoi, ça représente... En fait, c'est une métaphore de la condition féminine au Japon. Donc, je disais que le féminisme japonais avait peut-être fait émerger ça. C'est des autrices qui écrivent des intrigues pour des femmes, donc qui vont peut-être aborder, par le biais d'histoires entre hommes, ce qui arrive aux femmes.
Okay. En fait. J'écoute.
Oui, donc ensuite, on a des mangas plus destinés aux hommes gays, qui est le Bara. Donc, ce sont des mangas réalisés par des dessinateurs gays et destinés à un public gay, un peu. Il y en a qui n'aiment pas le terme Bara parce que ce serait une injure au Japon, là. C'est parce que ça veut dire rose en japonais et c'était une façon de surnommer les gays. Et c'est qu'il y a un magazine qui est apparu dans les années 70 qui reprenait le terme pour tenter de lui donner une connotation positive, mais ça n'a pas été le cas. Les Japonais l'ont abandonné, mais c'est imposé en Occident. Donc, certains préfèrent parler de manga gay.
Okay.
Et dans le Bara, on va rencontrer des hommes, là, beaucoup plus virils, poilus. Il y a la diversité corporelle. On est loin des effets que dans le yaoi. Les intrigues vont être plus directes, plus crues. Aussi, des fois, c'est une historiette qui dure quelques pages. Les scènes de relations sexuelles vont être beaucoup plus explicites. Tu vas retrouver du BDSM, des scènes de cocaïne, de l'humiliation. Là, on va tout trouver là-dedans. Donc, c'est comme beaucoup plus direct. Et le lectorat masculin peut peut-être s'exciter avec un bara beaucoup plus facilement qu'avec un yaoi. Mais souvent, les intrigues sont tournées d'une façon que on lit autre chose. Et c'est plus un exutoire de même. Donc, même si c'est très explicite, des fois, on peut rester loin de la pornographie.
OK. Est-ce qu'on peut aller, parce que le temps commence à aller, là. Manga didactique.
Oui, ça, c'est une petite catégorie intéressante. Ce sont des mangas qui vont aborder plusieurs aspects des communautés queer à travers des intrigues psychologiques dénuées de sexualité. Et on s'adresse avant tout aux hétérosexuels qui veulent en apprendre sur la communauté gay.
Ah bon?
On est loin de... Mais c'est fait avec bienveillance. On est loin de l'attitude, on va vous éduquer. Donc, c'est des histoires très psychologiques. Puis des fois, entre les chapitres, on a des petites capsules documentaires qui nous disent d'où vient le drapeau gay, qui nous explicitent certaines pans de l'histoire gay, etc., etc.
Okay.
Donc, une suggestion de manga didactique, Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame. Précipitez-vous là-dessus, là, c'est un très bon exemple du genre.
Les bizarreries.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'art érotique japonais, souvent on va trouver des monstres ou des hybrides humains-animaux qui ont une sexualité. Ça remonte à l'Antiquité, cette représentation-là. Mais les BDistes japonais, s'en sont emparés puis l'ont sexualisé. Donc, vous allez avoir toutes sortes de monstres, des fois, qui vont pouvoir interagir avec des êtres humains. Je pense à un manga, par exemple, où on nous racontait l'histoire d'un soldat qui est perdu en forêt et la forêt lui fait l'amour.
Oh!
Je vous laisse imaginer c'est quoi.
Ouais, les troncs d'arbres.
Pas juste ça. Pas juste ça.
Et autre petite anecdote, OVNI, on a dit, ouais.
Ouais, c'est qu'on a aussi dans les... ce que j'appelle des OVNI, il y a un manga qui s'appelle, excusez mon anglais, de sommaire... de sommet, Hikaru died. Mm-hmm. Ça, c'est une métaphore des amours entre adolescents. Il y a deux amis et l'un des deux, Hikaru, a disparu en montagne et est revenu. Et là, son meilleur ami se rend compte que Hikaru, ce n'est plus Hikaru, c'est un monstre qui a pris sa peau et qui s'est mêlé aux êtres humains pour mieux les connaître. Mais lui, il sait que c'est un monstre, puis il dit « Je sais que t'es pas Hikaru, de même. » Et là, il y a une relation amoureuse qui se développe entre les deux. Il y a Netflix qui en livre une adaptation animée en ce moment, qui est très intéressante. C'est très spécial, mais c'est une métaphore de la découverte de l'amour à l'adolescence.
On conclut?
On conclut. Quelques conseils. Si vous voulez explorer le monde du manga queer, moi, je vous donne un conseil. Allez toujours les acheter en librairie auprès d'éditeurs officiels ou dans des événements. Si vous êtes à Montréal, je recommande Planète BD, Librairie Z. Mm-hmm. Si vous êtes à Québec, la librairie Pantoute a une super section manga. Sinon, à Montréal, dans les événements, vous avez le Takuton, gros festival d'animation et de manga japonais qui se tient pendant la fierté et qui offre des programmations consacrées exclusivement aux yaoi et aux yuri.
Merci beaucoup. On va aller chercher des Pokémon.
Ouais, faut que j'aille les nourrir d'ailleurs, c'est l'heure.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram. @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union, Chabot.
Eh bien, c'est tout pour l'épisode 133 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à nos invités et chroniqueurs Jean-Luc Romero-Michel, Gengis Grenier et Philippe Aubert-Côté. Et puis, merci aussi à Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche et à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je réalise et j'anime cette émission. À la semaine prochaine!